France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Dans Chrétien d'Orient, ce dimanche matin, nous sommes avec une jeune voix qui nous vient de l'ancienne Jérusalem, plus particulièrement du patriarcat arménien et de ses salles d'archives, pour évoquer l'histoire des communautés chrétiennes d'Orient par une série de documents qui montrent la richesse de la relation entre minorités dans la famille pré-chalcédonienne. Alors il y a un autre mot qu'on utilise aussi pour décrire cette spécificité théologique, ce sont les miaphysites. Alors je suis avec Alice Croc, à l'époque des Mamelouks. Nous allons essayer de mieux comprendre ces chemins de l'histoire. Bonjour Alice.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes historienne, maître de conférences à l'université Paul Valéry à Montpellier et vous avez participé à un projet de recherche en 2022-2023, si je ne dis pas de bêtises, au cœur du patriarcat arménien, donc à Jérusalem. Vous participez avec des collègues à ce projet et des documents que l'on pensait perdus ou inexistants ont été retrouvés. Nous avons pu constater, dites-vous, que par un étrange jeu dont seule l'histoire a le secret, un échantillon non négligeable de ces documents avait été conservé à Jérusalem chez les Arméniens. Jérusalem alors comme un conservatoire du christianisme oriental ?
Absolument, un conservatoire inattendu. Donc l'histoire commence en 2021, ou même un peu avant, grâce à une intuition de Camille Roupetel, la directrice du projet, qui s'appelle Chris Cross, qui est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche. Et donc Camille Roupetel passe du temps à Jérusalem, entend parler d'archives, voilà, de documents islamiques concernant les chrétiens anciens, médiévaux, mamelouks, peut-être ayoubides, donc même avant les mamelouks, ottomans. Et elle arrive à monter un projet financé, à m'embaucher, et elle me dit « on va aller à Jérusalem, on va voir ses archives ». Là, je me dis « c'est pas possible, ça peut pas exister ». Alors pourquoi est-ce que je me dis ça ? C'est parce que les archives, les documents islamiques antérieurs au XVe siècle sont rares. On a des choses de la fin du XIVe siècle, mais très rarement avant, et presque rien concernant les chrétiens. Donc ça me semble très utopique. Mais on y va quand même et elle arrive avec de la bonne volonté et beaucoup de patience à nous ouvrir les portes du patriarcat arménien où nous sommes très bien reçus par le conservateur Archak qui nous montre effectivement des documents plus extraordinaires les uns que les autres qui concernent les propriétés, les biens immobiliers chrétiens à Jérusalem mais pas que, dans tout le Proche-Orient, notamment à Damas. Et ce qui nous fascine immédiatement, c'est que ces documents ne concernent pas du tout que les Arméniens, mais d'autres communautés chrétiennes, à savoir les Éthiopiens, les Coptes, les Franciscains et d'autres encore.
Décrivez-nous d'abord les lieux desquels nous parlons, ce patriarcat, ces archives, sous quelle forme ces documents se sont présentés ? Quelles ont été vos impressions ?
Alors, de la meilleure façon qui soit pour un historien, si je puis dire, c'est-à-dire dans des belles caves voûtées au patriarcat arménien, qui est très très beau, avec des grandes pierres de taille. Et donc, nous avons été reçus dans ces locaux qui ont été rénovés. Je dois quand même saluer les initiatives arméniennes et le personnel qui travaille là-bas avec beaucoup de dévotion. Et donc, on nous a présenté des documents magnifiques, c'est-à-dire pas des petits bouts de papier comme on peut s'imaginer, mais des grands documents en parchemin, donc très beaux, épais, très blancs, un peu abîmés par le temps, bien sûr. Et donc, on s'est retrouvés avec parfois des rouleaux d'1,50 m. Donc voilà, des documents, même dans leur matérialité, très impressionnants. Donc c'était merveilleux pour nous, entièrement en arabe, bien sûr, puisqu'ils émanent des tribunaux, des juges, donc ce qu'on appelle des cadis en français, des juges islamiques de Jérusalem et pas que. Donc ce sont des documents islamiques au sens strict, en arabe, signés par des juges islamique, donc, qui suit l'orthodoxie musulmane sunnite de l'époque, mais qui concerne les chrétiens. Et donc, on a aussi quelques annotations dans des langues propres au christianisme orientaux, donc en arménien, en éthiopien. Voilà.
Alice Croc, vous connaissez bien le Proche-Orient, vous avez visité le Tour Abdin, c'était d'ailleurs le sujet de notre précédente rencontre ici, le monde syriaque, syriaque orthodoxe. Vous avez visité donc des lieux qui ont abrité des bibliothèques, des archives. Ce genre de découverte est quand même assez exceptionnel dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'on pense tout connaître ou pas ?
On ne pense pas tout connaître. On sait que des archives ont été perdues, notamment du fait des génocides du XXe siècle, des déplacements de population, donc souvent, et même des destructions causées par Daesh récemment dans le nord de l'Irak et en Syrie. Donc on perd régulièrement des choses, on les retrouve parfois. Mais ce type de découverte qui concerne ce type de documents, c'est vraiment inédit et rarissime. Et c'est pour cela que le projet de Camille Ropétal a connu un grand succès et que d'un projet national financé par la France, il est devenu un projet européen, ce qu'on appelle une ERC. Et donc c'est un projet qui va encore durer 5 ans et on attend beaucoup de l'équipe qui travaille avec Camille sur ce corpus.
Comment l'Église arménienne a pu être finalement ce conservatoire ? Comment historiquement, nous parlions de l'histoire de la période des Mamelouks, donc on est au XIIIe, XIVe, XVe siècle jusqu'à l'époque ottomane. Les Arméniens ont eu un rôle particulier, un rôle fédérateur. Nous évoquions ces communautés pré-calcédoniennes. Quel a été ce positionnement historique ?
Alors, les Arméniens n'ont pas de rôle fondateur avant la période ottomane, mais c'est vrai que sous les Ottomans, elle devient l'église qui représente les autres églises miaphysites, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les monophysites ou les jacobites, donc ceux qui ne reconnaissent pas le concile de Chalcédoine, donc les Coptes, les Éthiopiens et les Syriaques dits orthodoxes. Et donc, l'église arménienne va représenter dans le système des millets ottomans les communautés, ces communautés miaphysites. Donc, elle devient un peu l'église chef et représentative au sein de cet empire. Et nous pensons, mais ce n'est qu'une hypothèse de recherche, que c'est à ce titre qu'elle a regroupé les archives d'autres communautés en son patriarcat de Jérusalem.
La grande famille culturelle opposée, alors ce sont des mots qu'il faut être prudent sur ce vocabulaire, c'est la tradition byzantine, c'est-à-dire la tradition orthodoxe, pro-calcédonienne, donc ce concile de 451, je crois, de notre ère. Donc c'est l'église impériale d'un côté, et de l'autre côté l'église des marges, est-ce qu'on pourrait dire ça ?
Oui, alors l'église des marges qui se considère comme orthodoxe, hein, bien évidemment. Oui, oui, absolument. On a la grande église impériale, l'église byzantine, représentée par ce qu'on appelle les Melkites au Proche-Orient, donc des chrétiens qui suivent l'église byzantine, mais qui sont arabophones, et ces églises qui sont des églises nationales, si on peut dire, donc l'église arménienne, où la liturgie est en arménien, l'église syriaque, où la liturgie est en syriaque, l'église copte, où la liturgie est en copte, l'église éthiopienne, où la liturgie est en gaze. Mais ce n'est pas forcément une opposition frontale qui se fait au fil des siècles. Il y a des collaborations, et ça, les documents le montrent, mais je ne peux pas te raconter ici. Mais il faut imaginer que dans ce contexte des 13e, 14e, 15e siècle à Jérusalem, il n'y a pas que des Byzantins, des Melkites et des anti-calcédoniens, des miaphysites, il y a aussi beaucoup de latins. Donc on a vraiment quasiment toutes les églises chrétiennes de l'époque qui sont représentées, bien évidemment, à Jérusalem parce qu'il y a des pèlerins et parce que tout le monde veut avoir des possessions en Terre Sainte. Donc on a une géographie confessionnelle très complexe, avec des alliances qui nous dépassent parfois, et les documents que nous avons découverts montrent justement des interactions insoupçonnées ou que nous connaissions mal.
Dites-nous.
Par exemple, le corpus qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est un corpus de documents, en fait, relatifs à Damas, des possessions, des biens immobiliers chrétiens à Damas, mais qui sont offerts comme fondation pieuse, qu'on appelle waqf en arabe, au profit de pèlerins ou de moines résidant à Jérusalem. Donc, par exemple, on a un très beau document, donc il faut s'imaginer un document qui fait 80 cm, très beau parchemin, de 1285. Et donc, c'est une vieille dame, une copte, qui réside à Damas, qui possède des biens à Damas. On n'a pas son prénom, on sait juste qu'elle s'appelle fille de Hadid, voilà. On sait qu'elle avait les sourcils très écartés et qu'il lui manquait des dents. Ça, c'est marqué dans le document pour l'identifier, en fait, physiquement. C'est toujours un aspect très amusant de ces documents. Et donc, cette dame, cette vieille dame, apparemment a à cœur de défendre, de financer la présence de moines éthiopiens à Jérusalem en 1285. Et donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va offrir à ses moines une maison à Damas, dans le fameux quartier de Bebtouma, qui est encore connu comme le
Saint
quartier...
Saint-Thomas.
Exactement, le quartier de Saint-Thomas, qui est encore un quartier chrétien à Damas aujourd'hui. Et donc elle va leur offrir une maison dont ils auront dorénavant le bénéfice financier. Et dans ce document, elle stipule explicitement donc, que ce bien est pour... Enfin, les bénéficiaires seront les Éthiopiens de Jérusalem, mais que si à un moment il n'y avait plus d'Éthiopiens, eh bien ce serait pour le bénéfice des Coptes. Si à un moment il n'y avait plus de Coptes, alors elle précise que c'est même pour Jérusalem, mais surtout pour ceux du Saint-Sépulcre, pour ceux qui résident dans le Saint-Sépulcre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on sait que des communautés résidaient, à proprement parler, dans le Saint-Sépulcre.
Donc c'est une forme de preuve, finalement, d'une présence abyssine éthiopienne assez ancienne, une forme de légitimation peut-être, sur le Saint-Sépulcre, c'est ça?
Alors, c'est pas qu'il n'était pas forcément la communauté dominante, mais ce qui est fascinant, et les collègues éthiopisants étaient très heureux de cette découverte, c'est qu'on ne savait pas du tout qu'il y avait une communauté aussi importante d'Éthiopiens à cette époque, à Jérusalem, mais aussi à Damas, et que les liens étaient si forts au Levant entre les communautés chrétiennes autochtones, entre guillemets, des Coptes, des Syriaques et les Éthiopiens. Et donc, cette femme, cette donatrice, a à cœur de défendre la communauté éthiopienne. Ça, ça répond à un contexte historique, c'est-à-dire que l'Église copte est un peu la souveraine sur l'Église éthiopienne. C'est elle qui nomme le patriarche de l'Église éthiopienne. Et donc, on peut comprendre que les Coptes patronnent, d'une certaine façon, la présence éthiopienne au Levant à cette époque. Mais ce n'est pas tout. Donc, nous avons plusieurs documents qui attestent cet intérêt copte pour l'Église éthiopienne et la défense de leur présence à Jérusalem. Mais on voit aussi que cette femme, par exemple, elle veut que son bien, si à un moment il est perdu, si à un moment il n'y avait plus, donc je disais, d'Éthiopiens, qu'ils reviennent aux Coptes, mais que s'il n'y avait plus de Coptes, ils reviennent aux Syriaques, et s'il n'y avait plus de Syriaques, qu'ils reviennent aux Maronites.
Toutes ces communautés sont mentionnées
dans le document. C'est une liste, vraiment. Elle dit, alors voilà, si, parce que c'est vrai, entre les pestes, les problèmes de pèlerinage, on peut imaginer qu'à un moment, il n'y ait plus de pèlerins éthiopiens à Jérusalem, pourquoi pas. Donc elle envisage cette clause. Et en l'envisageant, elle liste tous les bénéficiaires potentiels, donc voilà, maronites, arméniens, mais aussi les francs, les franciscains, et enfin les musulmans. Alors ça répond aussi à une exigence de ce type de documents islamiques, hein, qui sont régis par la charia, ce qu'on appelle le droit islamique en fait. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand un chrétien fait un waqf, fait une donation pieuse, eh bien il est obligé que les bénéficiaires en soient une catégorie qui est acceptée par le droit musulman. Donc à savoir les pauvres au sens large. Alors pour les moines, ça marche à peu près parce qu'en général, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais l'idée, c'est que cette aussi la catégorie des bénéficiaires soit infinie. Et c'est pour ça qu'elle liste autant de catégories en finissant par les pauvres musulmans, pour être sûr qu'en fait, sa fondation soit d'une part légitime et aussi éternelle en quelque sorte.
Alors Alice Crock, ce que montre aussi l'étude de ces documents, d'après ce que j'ai compris, c'est que les communautés chrétiennes sont parfaitement intégrées en fait dans le système juridique et judiciaire musulman, qui a une forme d'égalité par rapport aux autres justiciables ou pas?
Alors d'égalité, c'est difficile à dire et puis c'est un concept un peu difficile pour la période médiévale et pas qu'en monde islamique.
C'est un anachronisme.
Oui, on peut dire ça. Mais alors les chrétiens sont des immis, donc ce sont les protégés en terre d'islam, donc à ce titre ils ont des droits et des devoirs, un statut particulier, mais qui est parfaitement envisagé par les différentes écoles juridiques musulmanes. Et donc, ce qu'on découvre par contre avec ces documents, c'est qu'on n'imaginait pas que toutes les affaires intra-chrétiennes, donc une donation d'une femme chrétienne pour des moines chrétiens, passaient également par les tribunaux islamiques. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait imaginer, mais dont on n'avait pas autant de preuves tangibles. Et là, ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, c'est vraiment la fonction notariale, en fait, de ces cadis, de ces tribunaux islamiques, qui vont ratifier les problèmes de succession entre chrétiens, les questions de donation, les questions de propriété, les problèmes d'héritage, etc., etc. Et donc, les chrétiens passent devant ces tribunaux comme n'importe quel musulman, pour citer Camille Roupetel, donc les chrétiens seraient des musulmans comme les autres, dans le sens où, comme tout le monde, ils vont chez le cadi, comme on va chez le notaire, pour faire valider leurs différentes transactions.
Une dernière question sur ce sujet, Alice Croc. Vous nous parlions de documents retrouvés, mais qui existaient bien en tant que tels dans ces archives du patriarcat arménien de Jérusalem, ce qui veut dire que personne de la communauté arménienne n'avait travaillé sur ces documents. Est-ce qu'ils étaient inventoriés? Comment ça s'est passé?
Alors, pas que je sache, mais je précise que les Arméniens produisent souvent en arménien, qui est une langue... je ne maîtrise pas. Non, a priori non. Pourquoi ? Parce que le travail de conservation, parfois de rénovation de ces documents, ainsi que les inventaires qui vont avec, est un travail en cours, qui se fait avec des locaux, mais aussi avec des gens qui ont été formés à la conservation, à Matena Daran, qui est la bibliothèque nationale arménienne, donc ils sont envoyés d'Arménie,
à Yerevan.
Exactement, expressément, pour inventorier tous ces documents, les décrire, les rénover. Donc il y a un vrai investissement de la communauté locale d'une part, qui est arabophone, donc qui peut travailler sur les versions arabes de ces documents, mais aussi d'Arméniens venus d'Arménie, qui s'occupent vraiment de tout ce travail, et eux-mêmes découvrent tous les jours des choses insoupçonnées, et pas qu'en arabe, en français, en espagnol, en italien, en arménien, etc., etc. Donc pour eux aussi, c'est une expérience très enrichissante.
Vous êtes maître de conférence donc à l'université Paul Valéry à Montpellier. Vous faites des allers-retours pour retrouver vos étudiants de licence et de master. Vous êtes chercheur, c'est-à-dire que vous continuez votre carrière en parallèle de cette prospection pour le temps long, on va dire. Je suis très curieux de la manière dont vous enseignez l'histoire. Vous enseignez l'histoire islamique médiévale. Quels sont vos étudiants? Comment ça fonctionne dans ce monde d'aujourd'hui où il y a des sujets peut-être un peu compliqués à aborder, où les questions religieuses deviennent parfois un petit peu tendues, on va dire? Est-ce que vous avez une approche qui est basée sur votre expérience de chercheur ou vous êtes obligé de complètement vous remettre en cause?
Ni l'un ni l'autre. En fait, la première chose, c'est que les étudiants sont très heureux d'arriver à l'université, où on peut parler, en fait, beaucoup plus librement qu'au lycée, de théologie, de position religieuse, puisque c'est un cours d'histoire, donc mon propos n'est pas de condamner tel penseur qui serait aujourd'hui catégorisé comme un islamiste du XIVe siècle. Enfin, nous, on travaille sur les textes, on travaille dans une perspective historique, et donc, en fait, ils sont très contents de changer un petit peu de discours et de passer à un mode de réflexion plus libre, en fait, pour eux et pour moi. Donc, on peut étudier n'importe quel type de texte, on peut parler de n'importe quel type d'auteur, et on ne s'encombre pas de savoir si ce sont des extrémistes ou des penseurs nocifs, toxiques, etc. Et donc ça, déjà, je dirais que ça plante une ambiance assez positive dans les cours, et notamment parce que le public de la licence d'arabe, ce sont en partie des étudiants issus de l'immigration, donc musulmans eux-mêmes, et cela nourrit des échanges très positifs, pour peu que tout soit fondé sur des textes et pas sur des discussions idéologiques.
Est-ce que vous abordez l'histoire des chrétiens d'Orient? Est-ce que c'est enseigné à l'université? Alors pas votre cours de manière générale, mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est un sujet qui est traité ou qui n'est pas traité ou qui est...
Alors, je pense que mes collègues islamisants et moi-même, nous faisons de notre mieux pour offrir la vision la plus large, en fait, de l'histoire de l'islam, médiévale, ottomane, moderne, contemporaine, en incluant évidemment les chrétiens, mais aussi les juifs, ce qui est un point extrêmement important, surtout aujourd'hui. L'histoire des chrétiens d'Orient n'est pas enseignée dans les universités françaises, à part dans des endroits comme l'École pratique des hautes études ou le HESS. Mais au niveau de la licence, il n'y a pas de cours sur les chrétiens d'Orient. Donc cela fait nécessairement partie du cursus sur la civilisation islamique. Alors maintenant, c'est toujours un peu difficile d'aborder ce sujet parce qu'on est toujours entre deux positions, c'est-à-dire entre le désir de donner de la visibilité à ces communautés parfois en souffrance, sans tomber dans un discours de victimisation qui ne va pas forcément être bien entendu de la part des étudiants, enfin mal entendu. Donc j'essaye d'éviter d'avoir un cours sur les chrétiens, les juifs au Proche-Orient, mais plutôt d'aborder des points de leur histoire, des personnalités au fil des cours, et je dois dire que ça a un succès auquel je ne m'attendais pas auprès des étudiants qui sont très heureux d'entendre parler de la présence juive au Caire au XIe siècle ou des communautés chrétiennes d'Alep au XVIIe siècle. Voilà.
Parce que finalement, c'est de l'histoire de mondes engloutis dont vous parlez. Bon, il y a l'aspect histoire médiévale, bien entendu, mais c'est, comment dirais-je, ces descriptions. Voilà, dans ce document, donc on visualise cette dame de Damas qui fait une donation à des communautés coptes. C'est fascinant finalement de revenir en arrière. Vous comptez l'histoire peut-être ?
Oui, bien sûr, mais c'est vrai que cette question des mondes engloutis, elle est particulièrement difficile parce que, et surtout depuis 20 ans, où ce sont des mondes qui disparaissent complètement. Donc si on parle de la présence, je ne sais pas, juive à Thessalonique avant la chute de l'Empire ottoman, où c'était presque la moitié de la population, ou encore de la présence chrétienne au Caire jusqu'au XIVe siècle, ça semble irréaliste. En fait, aujourd'hui, on a du mal à imaginer parce que les bâtiments n'existent plus, parce que les communautés n'existent plus. Et donc, c'est très difficile de planter un décor, de créer un discours qui permette aux étudiants de se représenter ce que pouvait être le Moyen-Orient il y a 50 ans. Déjà, c'était très différent. Mais alors, il y a 500 ans, là, c'est complètement une autre histoire. Mais les documents, tout ce qui est de l'ordre de la matérialité, va aider énormément. Donc, les documents, par exemple, que nous avons, sur lesquels nous travaillons de Jérusalem, permettent aussi d'imaginer, de visualiser au sens strict ce que pouvait être l'existence des chrétiens qui vont chez le notaire, comme tout le monde, à Damas au XIIIe siècle.
Alice Croc, un immense merci pour être venue jusqu'à nous en ce dimanche matin.
Merci beaucoup de m'avoir reçu encore une fois.
Je remercie François Coninck pour la réalisation, Claire Poinsignon et Emmanuel Couturier pour la technique. Restez sur France Culture, nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche.